Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à En toute bonne foi pour la deuxième partie de notre émission, commencée la semaine dernière sur les charismes. Je suis très heureuse d'accueillir de nouveau Joseph Chalier. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Vous avez écrit « Puissance des charismes » aux éditions de l'Emmanuel, êtes conseiller éditeur et connaissez le terrain grâce à l'évangélisation que vous avez pratiquée. Alors la semaine dernière, nous avions défini ce qu'est un charisme et en avions vu quelques-uns. Aujourd'hui, nous allons nous poser cette question, mais qui peut donc les exercer? Auparavant, je suivrai ce que vous avez eu la sagesse de faire dans votre livre, lire un extrait de Lumen Gentium, qui est une constitution dogmatique sur l'Église. Le 29 septembre 1963, le pape Paul VI ouvrait donc la deuxième session du Concile par ce discours-programme dont le thème essentiel était l'Église. Alors voici un extrait du chapitre 12 qui nous permettra de poursuivre ensuite notre émission. Le même esprit ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré en chacun, les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église suivant ce qu'il est dit. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme, au chapitre 1 des Corinthiens. Ces grâces des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajusté aux nécessités de l'Église et destiné à y répondre. Mais les dons extraordinaires ne doivent pas être témérairement recherchés. Ce n'est pas de ce côté qu'il faut espérer présomptueusement le fruit des œuvres apostoliques. C'est à ceux qui ont la charge de l'Église de porter un jugement sur l'authenticité de ces dons et sur leur usage bien ordonné. C'est à eux qu'il convient spécialement non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon. Voilà qui est clair, et comme vous le disiez, comme toujours avec Vatican II.
C'est clair et riche.
Alors, tout le monde n'ayant pas un charisme, qui peut donc l'exercer, et comment savoir qu'on a ce charisme?
Je pense qu'on peut tous avoir un charisme, dans la mesure où, capax Dei, on est tous capables de Dieu, capables d'appeler l'aide de Dieu, capables de consciemment lui dire, ben voilà Seigneur, je te donne ma vie, Esprit Saint, viens travailler en moi, viens faire ce que tu veux. On est tous capables de consciencieusement se dire, voilà, entre guillemets, hein, je suis un petit soldat de l'Esprit Saint, général Saint-Esprit, je me mets sous vos ordres, quoi. Mmh. Voilà. On n'est pas obligé d'être du milieu sociologique charismatique, on n'est pas obligé, alors évidemment ça aide, hein. Là on est dans un pays
où il y a des réalités charismatiques,
ça aide. Oui. Voilà. Il y a des pays où des réalités d'église, l'orthodoxie est encore peu touché par la renouveau spirituel, donc ils vont l'être un peu plus tard, quoi. Donc voilà. Mais il y a quand même une possibilité d'être. En fait, qui peut charismer? Pardon, je fais un néologisme, mais qui peut charismer la personne qui demande.
Parce qu'on le demande.
Qui se met disponible, voilà, qui D'accord. se rend disponible à l'action de l'Esprit Saint. Derrière les charismes, derrière le côté épatant des charismes, Paul VI le redit bien dans Lumen Gentium, là, comme vous venez de le citer. Mmh. Le but n'est pas de le rechercher témérairement pour avoir des œuvres apostoliques extraordinaires. Ça serait présomptueux et vain.
Voilà. Oui,
plein sont tombés là-dedans. C'est pas parce qu'on a plein de guérisons et de miracles, soi-disant, oui. qu'on est une communauté saine, qu'on est un gars génial, etc. Ça n'a aucun rapport. On peut faire de l'esbrouf, quoi. Voilà. Par contre, la vie charismatique, la vie dans l'Esprit Saint, est une forme de renouveau spirituel et apostolique. Tout ça, c'est pour l'édification du monde, c'est pour la recherche du bien commun, c'est pour tout cela. Et donc, dans notre vie, qu'on soit banquier, paysan, ou j'en sais rien, moi, mère de famille, infirmière, enfin, on a plein de réalités de vie différentes, quoi. Citadin, rural. En fait, notre appel, notre vie, notre vraie vie de joie d'être chrétien, c'est de vivre avec l'Esprit Saint. Si on vit avec l'Esprit Saint, il y aura des charismes. Ils s'exprimeront d'une manière ou d'une autre, et les uns les autres s'exprimeront. On n'aura pas tous les mêmes charismes, quoi, c'est sûr. Voilà. Mais on ne va pas aller demander des charismes pour avoir des charismes, ça n'a aucun intérêt. Par contre, même si certains passent par ça, puis ensuite ça s'ajuste, voilà, ils sont attirés par les charismes parce que wow, c'est extraordinaire, machin. Mmh. Ensuite, ça s'ajuste. Mais la vie dans l'esprit, pour le coup, on est tous appelés et elle nous rejoint tous. Et elle, ensuite, l'Esprit Saint est très inventif.
Oui. Vous parliez d'esbrouf, tout ça, mais comment concilier une vie exemplaire et charisme? Cela me fait penser à la réflexion d'un de mes enfants apprenant qu'un de nos amis devenait diacre, et dont les enfants n'étaient pas à ses yeux exemplaires. Il se demandait s'il ne fallait pas que tout le monde soit saint dans la famille avant d'être diacre. Alors on se dit, est-ce qu'il ne faut pas être un peu saint avant de pouvoir acquérir ce don?
On marche vers la sainteté.
Oui.
En marche vers la sainteté, oui. Moi, ce que je constate, c'est que dans ma propre vie, et puis dans celle d'autres chrétiens qui pratiquent les charismes, c'est que si on essaye d'avoir une vie de prière, une vie de prière centrée sur la parole, une vie de prière de générosité aussi, d'humilité, d'unité, extrêmement important, l'unité dans l'exercice des charismes.
Ça veut dire quoi, l'unité dans l'exercice des charismes?
L'unité, c'est que c'est pas à moi d'abord, c'est pas moi qui ai raison. En tout cas, dans l'unité dans l'exercice des charismes, la question de l'unité centrale, c'est de se dire, c'est pas parce que je pense avoir reçu quelque chose de l'Esprit Saint que c'est là l'orgueil s'infiltre tout de suite.
Oui. On reste au
service. J'ai reçu et là je deviens une espèce de d'ayatollah du charisme, écrasant tout le monde avec beaucoup de sourires selon le caractère. Moi, j'ai des petites dames très sympathiques qui ont des bouffées d'orgueil hallucinants. Alors que dans la vie de tous les jours, elles sont d'une simplicité toute simple. C'est pas lié au caractère grande gueule. Après, il y a des grandes gueules qui viennent et quand ils ont un charisme et une bouffée d'orgueil, ils sont grandes gueules, mais ça s'inscrit dans notre caractère. Mais il y a quelque chose de l'unité. Donc, quand je pratique un peu tout cela, c'est-à-dire une vie chrétienne de vertu, etc., ça aide évidemment à l'exercice des charismes.
En fait, il faut être en harmonie et en cohérence.
Exactement. Et pour autant, moi, Joseph Chalier, je suis pêcheur, plus que pêcheur, et je pêche tous les jours et j'avance, j'essaye d'être chrétien tous les jours. Mais c'est pas parce que je pêche que mon péché, que mon ouverture au charisme est bouchée.
D'accord.
C'est ça qui est surprenant. Et alors après, il y a aussi une autre quelque chose de très surprenant, c'est que on a des traces de charisme authentique venant de pêcheurs manipulateurs très très maladifs, quoi. Donc ça, moi, j'avoue, ça me surprend beaucoup.
Mais c'est très déstabilisant.
C'est déstabilisant, c'est de se dire tiens, il y a quelque chose de... Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Thomas d'Aquin, il y a la grâce pour nous aider à avancer. Ça, c'est la grâce sanctifiante. C'est celle qui me rend saint. Et il y a la grâce pour aider les autres à avancer. Cette autre grâce-là ne me rend absolument pas saint. Et donc, il faut faire gaffe. C'est de se dire, si je crois que vu que j'ai plein de... Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis auteur, j'écris des livres sur les charismes. Si mes bouquins se vendent bien, si je fais des charismes extraordinaires, si je vais former des gens à droite, à gauche, et si je crois que c'est par là que moi, Joseph Chalier, je vais me sanctifier, je me leurre. Et le malin aura gagné. Si je suis bien conscient qu'il y a ma grâce sanctifiante que je dois demander, que je vais par la prière, par la charité, on va bientôt commencer le carême, par l'aumône, la prière et le jeûne, enfin voilà, comme tout chrétien, si je prends les messages de l'évangile et de l'église pour essayer de me convertir, et que d'un côté, c'est pas rien, c'est juste distinguer Saint Pascal, distinguons, séparons pas, je distingue la chose, il y a un autre aspect de la grâce, c'est que peut-être que par ce travail, mes livres, etc., oui, ça aide des gens à aller vers Dieu, mais les deux ne sont pas, il n'y a pas un égal entre les deux.
Il faut vraiment un accompagnement spirituel, en fait, pour garder les pieds sur terre.
Comme tout chrétien.
Oui, mais peut-être un peu plus, non ?
Oui, alors quand on a une vie charismatique, je pense que quand on a une vie charismatique, en fait, il faut qu'elle soit notre vie apostolique doit être proportionnée à notre vie spirituelle et donc d'accompagnement. Ça, c'est Don Chotard le disait très bien dans l'âme de tout apostolat. En fait, si je fais plein de choses... Pardon, Don Chotard, c'est un moine qui a écrit un bouquin il y a donc un siècle, je crois déjà. Et sous son air d'un écrit d'un siècle, ce qu'il rappelle pour tout apôtre, aujourd'hui on dit leader, on dit missionnaire, mais on est apôtre, en fait, c'est la prière. S'il n'y a pas la prière, la charité et le troisième pilier, je ne sais plus, en fait, il y a un risque de ne pas... que l'apostolat devienne notre truc.
On a l'impression que les personnes qui ont des charismes leur vie tourne tout autour et que ce n'est pas quelque chose qui est un supplément. Par exemple, quand je vous écoute, je me dis que si vous avez le don de science ou je ne sais pas, comment est-ce qu'on arrive à vivre normalement, enfin...
Alors peut-être que ça donne cette impression-là. Je pense à l'inverse que sociologiquement, les charismes ont été pendant des siècles condensés vers des grands moines connus, vers des saints, vers, voilà, vers les popes en orthodoxie, etc. Oui. Ils avaient beaucoup de charisme, beaucoup de miracles. C'était concentré vers des personnes. Aujourd'hui, le renouvellement lié au renouveau spirituel de Vatican II pour la place des laïcs et du renouveau charismatique qui a eu lieu quelques années plus tard, en fait, on constate que la pratique des charismes s'est démocratisée. J'aime pas trop ce terme, mais
oui.
Vous voyez ce que je veux dire.
Oui, ça, très
c'est,
bien.
En fait, c'est des paroissiens lambda.
Oui.
Des paroissiens lambda, charisme. Et ça, je peux vous le montrer tous les jours. On parlait de Saint-Nicolas des Champs la semaine dernière. C'est pas des grands charismatiques qui passent leur vie à faire ça. Hein. Il y a un banquier, il y a une infirmière, il y a une mère de famille à la retraite, il y a un prêtre, enfin, il y avait un prêtre qui était malade comme un chien.
Oui.
Il n'y a pas de grandes stars des charismes qui font que ça de leur journée. Hein.
Oui.
Souvent, le jeudi, ils jeûnent. Ils prient intensément.
Ah oui, donc ils sont dans les dispositions.
Voilà, ils se mettent dans une disposition certes particulière, mais pour exercer ce charisme particulier. Pour une personne qui a le charisme d'écoute,
oui.
Qui est infirmière, qui est psychologue, qui est machin, qui a un charisme d'écoute, qui certes a des capacités parfois humaines pour le faire, mais qui a aussi un charisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dépasse ses capacités humaines. Et ça, elle peut le voir. Elle sent qu'elle voit, elle constate qu'il y a quelque chose qui la dépasse.
Mmh.
C'est la grâce de Dieu qui la dépasse et que la personne qui est en face d'elle peut lui dire d'ailleurs. Vous avez un truc avec l'écoute que j'ai pas chez les autres psys. Moi, j'ai des amis psys qui me disent ça.
Oui.
Et ben oui, mais j'ai demandé le charisme d'écoute. Pour que, si possible, dans mon travail, je puisse témoigner d'une manière ou d'une autre. Ben, à un moment donné, quand ça vient, ça vient. Et ça, ben, on la voit d'abord comme une psy que comme une charismatique. Voilà.
Oui, très bien. Écoutez, on va faire une petite pause.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Joseph, j'ai une question toujours sur ces fameux charismes. Est-ce qu'il peut être momentané ou alors une fois qu'il est reçu, il est donné à vie?
À vie, non, c'est dans CDD.
Non non,
en fait, c'est l'œuvre de la grâce, elle est comme... Enfin, le bon Dieu est libre.
Il peut donc retirer ce don.
Mais bien sûr, et ça, il faut qu'on en soit convaincu quand on pratique.
Oui, alors justement, tout à l'heure, vous parliez de quelqu'un de manipulateur. Pourquoi est-ce qu'on ne lui retire pas pourquoi est-ce que le bon Dieu ne lui retire pas ce don?
Ça, vous lui demanderez, je ne suis pas le bon Dieu. Mais alors, typiquement, dans un exercice abusif des charismes, parfois, la personne continue d'exercer la chose.
J'ai compris.
Mais il n'y a plus de charisme, en fait. Il n'y a plus rien. Hein.
En fait, l'emprise est importante.
Oui.
Et donc, et comme c'est une personne manipulatrice...
Dans sa psychologie, elle pense, sans doute que dans sa bonne volonté, elle pense faire. Sinon, elle est consciente qu'elle fait le mal et elle continue.
Mm-hmm.
Mais parfois, elle pense faire le bien, sauf que sa théologie est biaisée, sa psychologie est malade, etc. Mm. Mais pour revenir à une personne bien portante, non, le charisme peut tout à fait être utilisé par n'importe qui. Dès qu'on est chrétien et qu'on s'ouvre à la vie dans l'esprit, on peut charismer, on peut exercer les charismes et se former et se faire accompagner, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est très facile, en tout cas en France. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce charisme peut être donné pour un temps, pour un temps court, pour un temps long, pour une seule fois. J'ai déjà une personne qui a exercé tel ou tel charisme une seule fois dans sa vie. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Mais il s'est ouvert régulièrement et ce charisme-là, il l'a reçu ce jour-là. Et il dit que c'était sans doute que ce jour-là, il y avait besoin. Il n'y avait peut-être pas de chrétien dans la salle qui s'est rendu disponible pour ce charisme-là. Enfin, j'en sais rien, ça c'est moi qui dis, mais les charismes ne nous appartiennent pas.
Est-ce qu'on peut avoir un charisme?
On est des canaux de la grâce, hein, des canaux.
Des canaux.
Des canaux de la
Est-ce
grâce.
Est-ce qu'on peut avoir un charisme, puis on en reçoit un autre, par exemple?
Encore une fois, on parle bien de charisme don spirituel. Hein.
Oui, bien sûr.
On l'a dit
la
semaine dernière.
Bien sûr.
Parce que le charisme de la vie consacrée pour une bonne sœur ou pour un laïc consacré dans le monde, j'espère qu'il l'aura toute sa vie. On parle bien d'un don spirituel qui peut aider à l'assemblée de prière, etc. Nous n'en sommes pas propriétaires, nous en sommes intendant. Mais enfin, ça, c'est la DSE, hein, c'est dans la doctrine sociale. Tous nos dons sont donnés, ça vient de Dieu et ça peut repartir de Dieu.
D'accord.
Quelle était votre question, Julie?
Alors, est-ce qu'on peut avoir le don des langues? Pof, il disparaît. On a le don de connaissance, enfin de science. Pof,
oui,
ça disparaît.
De manière empirique, enfin de ce que je constate des expériences des uns des autres, c'est que il y a parfois certains charismes qui sont là à 4-5 ans.
Ah oui,
en simultané avec d'autres, hein, évidemment. On a souvent, c'est rare qu'on ait qu'un charisme.
D'accord.
Voilà. D'abord parce que le bon Dieu est généreux, parce que si on s'ouvre pour la mission, quand vous voyez l'état du monde, on peut y aller, hein, demander les grâces du bon Dieu, il n'y a pas de problème. Hein. Ce qui peut un peu varier, c'est aussi notre, puis c'est notre vie, c'est notre caractère, c'est
notre expérience.
Notre expérience. Il y a des choses voilà, où on est moins ouvert à ça, et puis on va avoir d'autres choses. C'est normal, ça. J'ai une amie qui était kiné.
Oui.
Et elle avait demandé le charisme de guérison. Bon, en termes de business plan, c'est pas forcément le meilleur, mais bon, voilà. Très missionnaire. Elle a exercé plusieurs fois ce charisme. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des guérisons plus rapides qu'avec ses séances kinés. Donc, elle a perdu des clients, mais gagné des gens interloqués. Oui. Voilà, parce qu'elle disait très clairement, voilà, si vous voulez, je peux... En fait, elle priait pour les gens, intérieurement. Et puis, quand il y avait la guérison, elle leur disait pourquoi il y avait eu la guérison accélérée.
Oui. Voilà.
Ça arrivait plusieurs fois. Maintenant, elle n'est plus kiné. Donc, elle n'exerce absolument plus son charisme de guérison.
Oui. Ah oui.
Elle pourrait le faire autrement, mais... Enfin, elle est mère de famille, elle a deux gamins, elle a une vie bien nourrie. Enfin, elle a moins de lieux aussi pour exercer ce charisme de guérison. Mmh. J'imagine qu'en tant que mère de famille, elle a d'autres charismes qu'elle exerce. C'est la vie aussi. Enfin, on est en rapport avec sa mission en tant que célibataire kiné. Elle s'est dit, je peux m'ouvrir à ça.
Oui.
Sa mission en tant que jeune mère de famille n'est pas la même.
Je me souviens d'une amie endocrinologue qui animait avec d'autres, hein, soirée de louanges et de prières de guérison. Et quelqu'un a été guéri d'un des maux qu'elle soigne habituellement. Et je disais qu'il y avait de la concurrence quand même.
Exactement.
Alors, recevoir un charisme, est-ce que ça peut faire peur? Je me souviens encore d'une parole d'un de mes enfants qui me disait que tout petit, qu'il ne voulait pas être saint parce que les enfants saints mouraient vite. Là, pour un charisme, est-ce que ça peut faire peur ou alors on acquiert en même temps une paix intérieure?
Alors, les charismes peuvent faire peur parce que s'ils sont inconnus, enfin tout ce qui est inconnu nous fait peur, ça c'est un peu plus basique,
oui.
Ou bien nous attire, ça dépend des caractères. Mais je pense plutôt, enfin ce que je constate, c'est que quand les personnes sont attirées par les charismes ou par la vie spirituelle dans l'Esprit Saint, un peu plus, s'y ouvrent, etc. il peut y avoir de l'appréhension, mais on n'est plus à la peur tétanisante. Il y a de l'appréhension,
oui.
Mais c'est souvent une sainte crainte. C'est comme certains prêtres qui s'approchent de l'ordination ou certains fiancés qui s'approchent du mariage. S'ils sont dans la liberté, ils ne sont plus dans une peur bloquante, ils sont dans une appréhension. Est-ce que j'ai tout bien vérifié? Est-ce que c'est tout bon? Et donc, dans l'exercice des charismes, cette appréhension... Moi, si elle reste pendant 50 ans, c'est très bien. Hein. 50 ans de vie charismatique avec l'appréhension de est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que j'ai pas rajouté des mots qui étaient des mois à moi et j'ai rajouté mon grain de sel qui était un peu idiot? Enfin, voilà, une sainte appréhension de... Parce qu'on touche quand même avec la vie spirituelle et donc il ne faut pas faire de bêtises. Quoi. Mais la vie dans l'Esprit Saint nous donne également, quand même, il faut le reconnaître, une vraie exaltation. Hein. Un dynamisme, une joie. Les petits défauts de certains charismatiques qui sont un peu rentrent dedans, c'est parce qu'en fait, c'est une joie qui déborde et qui, humainement, ils arrivent mal à maîtriser. Mais ça, c'est comme ça.
Mais du coup, ils passent un petit peu pour des illuminés parfois.
Oui, mais il y en a qui passent pour des illuminés. Enfin, bon, je ne suis pas sûr que les apôtres étaient très. Ils ne passaient pas tous pour des mecs de l'Académie française. Hein. C'est normal. Il y a des caractères différents, il y a des histoires de vie différentes. Il y a des gens, ça ne gêne pas du tout d'être illuminés. Ils se disent qu'il faut qu'on le soit tous et ils attirent eux tous les illuminés. Voilà. Moi, je ne suis pas tellement illuminé, mais j'attire pas trop. C'est rare que les illuminés trouvent que ce que je dis est intéressant. Oui. Ça les aime moins. C'est comme ça. Enfin, j'ai d'autres amis qui sont plus illuminés et ils expliquent autrement les charismes. Ça se complète. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de garder l'unité. C'est pas de se dire que j'ai raison et que les autres ont tort.
Il y a un charisme que les jeunes développent de plus en plus. Je ne sais pas si on peut appeler ça charisme, le charisme d'évangélisation. Il y a de nombreuses formations, écoles de prière, je pense au Congrès Mission, Cap Méditerranée ou Canspes, Mission Isidore, le CM, Ain Karem, Annoncio, les diocèses, Fides. Enfin, voilà, on vit vraiment cette Pentecôte hein, dont vous parliez tout à l'heure. Et alors, ce qui est très touchant, non, c'est pas touchant, c'est génial en fait. C'est que ça touche tout le monde, les tradis, les chachas. Et comment expliquez-vous que là où on pensait qu'il pouvait y avoir des frontières dans ces catégories de croyants, alors vous allez me dire que c'est la puissance de l'esprit, mais comment cela se fait-il? Parce qu'ils se côtoient sans problème.
Un sociologue pourrait nous dire que c'est les années des Mohicans. Donc en fait, c'est la fin de la chrétienté, donc en tant qu'ils se retrouvent.
Alors sauf que c'est le début, parce qu'ils font un super boulot.
C'est pas totalement faux. on est dans une situation, en tout cas en Occident, de regroupement. Moi, ma réponse, elle est quand même plus... Je suis assez épaté pour fréquenter beaucoup ces milieux et ces différents milieux.
Oui.
Une fois, juste une petite anecdote. Une fois, il m'est arrivé le matin de parler à des jeunes scouts d'Europe, de Versailles, et l'après-midi, à des jeunes de l'aumônerie de Bondy. Et j'envoie un SMS à une amie qui prie pour moi dans ce genre de cas. Elle me dit, mais t'as toute l'église de France devant toi en une journée. C'est quand même extraordinaire. Les jeunes.
Mais vous ne croyez pas que les jeunes de Bondy sont plus proches des scouts d'Europe que les scouts de France? Les scouts d'Europe seraient plus proches des jeunes de Bondy que des scouts de France.
Sur certains points, puis d'autres pas du tout.
Ouais.
Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'était de se dire, moi, j'ai pas trop adapté mon discours. C'était pour les engager à aimer l'Église, aimer le monde et à foutre le feu au fond du monde. Donc il y avait pas grand chose de différent. Culturellement, je pense qu'ils ont été touchés par différentes choses. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que dans ces jeunes-là, il y a de fait une soif missionnaire qui s'exprime dans des Bien sûr, dans des appétences différentes. Ne soyons pas naïfs. Il y a de l'évangélisation de cathos de gauche, il y a de l'évangélisation de cathos de droite, il y a de l'évangélisation de... Mais en fait, on a besoin d'évangéliser tous les milieux.
Bien sûr.
Tous les milieux sont à évangéliser, donc il n'y a pas de problème, allez-y. Annoncez le bon évangile. Et puis, s'il y a une partie de l'évangile, comme je dis souvent, dans l'évangile, il y a deux pages, une de gauche, une de droite. Si on la comprend une mieux, bon, bah, tant mieux, mais n'oublions pas qu'il y a l'autre. Voilà, bien c'est sûr. Comme ça. Dans ce dynamisme missionnaire, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même un fruit de Vatican II et du renouveau charismatique, qui pour moi, encore une fois, n'est pas un renouveau charismatique, mais un renouveau pentecostal. Et le but, l'Esprit-Saint nous envoie dans le monde. C'est quand même son job. Hein.
Alors, vous terminez votre livre avec les 8 béatitudes des charismes.
C'est possible, je ne sais plus.
Et vous donnez des conseils. Alors, je suis pas sûre qu'on ait le temps de les voir tous. Vous aviez parlé de la compassion, du jeûne, le cœur pur, l'humilité, le détachement, heureux charismatique qui accepte que cela coûte. Ça veut dire quoi?
En fait, il y a quand on est lié à la mission, ça va rejoindre la question précédente, mais quand on est lié à la mission, c'est qu'on est pris un peu aux tripes par un cri du monde, ou par un cri des pauvres, ou un cri de la terre. Enfin, voilà, le pape François a ces expressions-là. C'est-à-dire, quel cri me parle? Et à ce moment-là, je me tourne vers l'Esprit-Saint, ou j'y vais avec l'Esprit-Saint, enfin peu importe dans la dynamique. Mais pour répondre en tant que missionnaire, ça me coûte un peu. Alors peut-être que parfois dans l'Église ou dans certaines spiritualités, on appuie trop sur le côté coûter, ce qui fait que votre gamin pense que on est saint quand on meurt jeune. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, il y a quelque chose de réalité, de réel, c'est qu'en fait, quand on vit, dans la vie, dans l'esprit, on se rapproche de la croix. Mmh. Mais la croix, elle fait mal, et la croix, elle sauve. Donc, si on n'est que charisme et patent, machin, qui sauve, et qu'on oublie la croix, on est dans du bluff. Voilà. Le charisme de science, qui est peut-être de guérison, qui est peut-être l'un des ceux les plus frappants, les plus interloquants, ils sont éminemment liés, je trouve, pour un exercice sain de charisme, il faut qu'il soit lié à le charisme de compassion. Mmh. J'ai de la compassion pour les malades pour qui je prie.
Oui.
Je fais pas des prières de guérison, je fais des prières pour les malades, ça n'a rien à voir.
Tu restes
donc,
commencer avec
celui qui coûte un peu, ben voilà, les scouts d'Europe ou les jeunes de Bondy, de la paroisse, quand ils sont en mission, oui, ça coûte un peu. Il faut trouver une manière de venir, il faut trouver ci, il faut trouver ça. Mmh. Oui, ça m'empêche. Voilà, j'étais à l'aumônerie un samedi soir ou un samedi matin. Mmh. Bah, c'était à la place de autre chose.
Oui, bien sûr. Une dernière question. Est-ce que on sait qu'on ne va pas, qu'on va prier pour une personne qu'elle ne va pas guérir et on en souffre? Est-ce qu'on peut ressentir une impuissance ou une révolte en se disant un tel est venu me voir? Ça n'a pas marché.
Je pense que ça dépend aussi des personnes. Ça oui. dépend de chacun, évidemment, de celui qui
ça
prie.
Peut nous bouffer, peut-être, non?
Je vais donner une réponse personnelle, si je peux me permettre, là-dessus.
Oui. Merci beaucoup.
J'exerce le charisme de connaissance depuis 15 ans.
Oui.
Depuis que j'ai 15 ans. Oui. Depuis 20 ans. Et il y a eu de tout. Mais vraiment de tout. Enfin, dans les sentiments, c'est passé par tout aussi. Une fois, j'ai fait une bêtise, j'explique dans mon bouquin.
Oui,
j'ai rajouté un petit mot, et du coup, la personne ne s'est plus sentie concernée. J'ai dit, ah merde, c'est moi qui ai rajouté un petit mot pour un peu.
Vous pensiez être plus clair.
Pour être plus clair, non, je pensais être plus doux.
Ah, oui.
Le Seigneur n'avait pas besoin d'être doux avec cette personne-là. Il est brutal.
D'accord. Voilà.
Bon, ben là, ce soir-là, j'ai compris que. Il se trouve que j'ai charismé sans le savoir pour une amie. Donc, il me l'a parlé après en tant qu'ami. Voilà. Ce jour-là, j'ai compris que. Voilà. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je suis devant 1500 jeunes, on prie. Enfin, voilà, je vois les 1500 jeunes parce que je suis pas face à eux, mais quand même, je les vois. Y a un charisme que je reçois de guérison vis-à-vis de l'addiction à la pornographie ou des choses comme ça.
Oui.
Oui, je m'émerveille pour la personne qui est sauvée. Mais je sais que statistiquement, 9 gars sur 10 sont concernés et 6 filles sur 10.
Donc j'ai de la compassion. Autant de filles.
Oui. Et donc j'ai de la compassion pour tous les autres. Et c'est en ça. Alors je suis sorti de la soirée quand même dans la foi, mais vraiment dans l'intercession, de se dire Seigneur, continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Et j'avoue, c'est un peu ma prière, mais voilà, ça, c'est très personnel. Seigneur, accélère ton œuvre.
Merci Joseph pour ces deux belles émissions. Nous avons, grâce à vous, largement appréhendé ce que nous appelons les charismes. Je vous remercie parce que la semaine prochaine, issue de ces charismes, il y a des miracles. Et nous en parlerons ensemble. Je rappelle le titre de votre livre, Puissance des charismes, aux éditions de l'Emmanuel. Bonne semaine, chers auditeurs, et à dimanche prochain.